Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et oui, c'est le début aujourd'hui de la deuxième saison du podcast. Et oui, je suis très, très heureux de pouvoir vous la présenter. J'ai travaillé fort pour vous dénicher des excellents invités et puis on commence ça très fort cette semaine. En fait, pour les deux prochaines semaines avec 6 épisodes 100% radio, c'est-à-dire que je vais faire un spécial radio dans le Made in Québec podcast avec des animateurs radio que vous connaissez très bien. Les noms vont être divulgués au cours des prochains jours et on commence ça aujourd'hui en force avec le premier épisode de cette série spéciale radio avec nul autre que Sébastien Trudel. Et ceux qui se demandent qui est Sébastien Trudel, et oui, vous le connaissez, certains le connaissent en fait probablement déjà, mais Sébastien, c'est l'ancien des Justiciers masqués à C'est quoi dans le temps, qui ont fait plus de 15 ans de radio quand même, c'est assez exceptionnel. Puis aujourd'hui, est membre de l'équipe d'énergie, ça rentre au poste avec Marie-Claude Savard et puis Maxime Martin. Alors, je voulais qu'on parle de sa carrière, je voulais qu'on fasse un petit survol rapide on en a parlé beaucoup parce que c'est une grosse partie de sa carrière, les Justiciers masqués. Écoutez, Justiciers masqués, comme je disais, c'est plus de 15 ans de carrière avec des coups de téléphone légendaires, là. des vrais coups de téléphone. C'est ceux qui ne l'ont pas vu, je vous dis, disponible sur YouTube, la plupart d'entre eux. Quand on parle de coups de téléphone légendaires, Paul McCartney, Ozzy Osbourne, Paul Martin, l'ancien premier ministre, Stephen Harper, l'ancien premier ministre également, Bill Gates. Et oui, ils ont piégé Bill Gates. On en parle dans le podcast. C'est vraiment une anecdote incroyable, l'anecdote de Bill Gates. Janet Jackson, Tiger Woods, Britney Spears et Justin Trudeau. Ça, c'est parmi les noms que je vous mentionne. Il y en a beaucoup d'autres. Ça lui a valu un contrat de 3 ans avec MTV, le réseau américain MTV. Et puis, c'est vraiment incroyable que deux petits Québécois ont réussi à faire ça, rencontrer au collège Jean de Brébeuf jusqu'à devenir aux États-Unis carrément. Ils ont fait des centaines d'entrevues là-bas. C'est incroyable pour vrai leur carrière. Les Justiciers masqués ont marqué le paysage de la radio québécoise. C'est vraiment extraordinaire leur carrière. Et puis aujourd'hui, ben, les gars se sont séparés, ont pris des chemins différents, un peu comme les Grandes Gueules, on en a parlé, on a fait des comparatifs également avec les Grandes Gueules dans le podcast. C'est tout à fait correct aussi, en vieillissant, c'est normal, nos besoins peuvent changer avec le temps. Et puis aujourd'hui, ben, ça a donné des très beaux résultats parce que Marc-Antoine est impliqué en politique au niveau de la mairie de Montréal et pour ce qui est de Sébastien, comme vous le savez, est à Énergie. Donc, on a fait un survol de sa carrière qui a mené à Énergie aujourd'hui et également parler de son côté auteur parce que ceux qui ne le savent pas, Sébastien a co-écrit également l'idéateur du projet documentaire explosif sur la vie de Raymond Boulanger qui, vraiment, je vous le conseille, vient tout juste de sortir la semaine dernière sur Crave. Ceux qui ont Crave avec Belle, félicitations, vous pouvez l'écouter. Ceux qui ont Vidéotron, désolé. Ça va sortir au mois de janvier sur Canal D, comme Sébastien nous disait. Donc, c'est vraiment un documentaire qui, personnellement, me tease, m'intéresse énormément. Écoutez, je vous le dis, c'est incroyable. La vie de Raymond Boulanger, là, c'est un pilote d'avion qui a transporté des centaines de kilos de cocaïne à travers les États-Unis, la Colombie et le Canada. Oui, un peu comme le film American Made, ceux qui ont vu le film avec Tom Cruise. C'est vraiment la même histoire qui a été même inspirée de ce que j'ai compris. Il y a des bouts qui ressemblent vraiment beaucoup à sa vie. Et c'est vraiment exceptionnel là, ce qu'il a vécu. Il a côtoyé de près Pablo Escobar. Et oui, le narcotrafiquant Pablo Escobar, ça a été un de ses principaux clients, employeurs, bref. Un contact qu'il y avait à l'époque, qui a travaillé en fait avec. Et également pour la CIA. Là, ceux qui vont dire, c'est quoi le rapport avec la CIA? Ben oui, il a passé de la drogue pour la CIA aux États-Unis. En tout cas, vraiment, c'est incroyable comme histoire. C'est frustrant même à entendre, mais c'est un Québécois qui a réalisé ça, qui a fait 23 ans de prison quand même, dont 2 évasions. Rien de moins de 23 ans. Aïe, aïe. Bref, aujourd'hui, il livre son histoire dans ce magnifique documentaire co-écrit et comme idéateur, en fait, Sébastien Trudel dans ce magnifique documentaire. Donc, je vous suggère de l'écouter, disponible sur Crave et en ce moment, numéro 1 partout au Québec. Alors, vraiment, félicitations pour ce bel accomplissement pour Sébastien. Et un livre également que j'ai très, très, très hâte de me procurer. Le livre « Les folles histoires de la radio FM » à micro fermé, en fait, le titre. C'est incroyable. Ce livre-là m'intéresse tellement. On parle de l'époque, en fait, des années 70-80 jusqu'à mi-90 de la radio FM de Montréal. Ceux qui ont vu le film, en fait, Funky Town avec Patrick Huard, c'est un peu la même histoire, le même type d'histoire qu'on entend. C'est plusieurs anecdotes de différents animateurs radio à travers les années, jusqu'aux grandes gueules, justement, Mario Tessier qui a collaboré dans le livre, qui mentionne les meilleures anecdotes qu'ils ont vécues à travers leur carrière de radio dans la radio FM. En tout cas, ça m'a vraiment teasé ce que Sébastien nous a dit dans le podcast. Je vous conseille d'écouter ce bout-là. C'est à la fin du podcast qu'on en parle. Le livre va sortir, était prévu pour avril 2020. Naturellement, avec la pandémie, ça l'a été reporté. Et puis, pour l'instant, est prévu en octobre 2020. Donc, la sortie le 14, si j'ai une bonne mémoire, que Sébastien nous a dit. Alors, c'est un livre que j'ai très, très hâte de me procurer en tant que maniaque de radio, bien sûr. Et puis, tous ceux qui veulent suivre Sébastien chaque jour sur les ondes d'énergie, dans le retour, en fait, vous êtes dans le trafic, Saint-Anne-Zé 94.3 FM. Alors, je vous souhaite une excellente écoute du podcast. Ça a été vraiment un épisode que j'ai adoré faire. Très, très sympathique, Sébastien. Généreux du propos et énormément un gros merci à Sébastien de m'avoir donné du temps. Parce que ceux qui ne savent pas, il finit son émission à 5h50. À 6h30, on commençait le podcast et il y a eu le trafic entre-temps. Il n'a pas soupé. Il m'a offert 1h15, 1h30 de podcast quasiment. Vraiment, là, merci à Sébastien pour cette générosité et tout son temps. Alors, je vous souhaite une excellente écoute pour ce premier épisode de la deuxième saison du Made in Québec podcast en compagnie de Sébastien Trudel. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Et aujourd'hui, c'est le début de la deuxième saison. Et oui, déjà la deuxième saison. Quand même assez drôle parce que le podcast a débuté au mois de mai. Donc, ça fait plusieurs épisodes en un peu de temps. Ça a été une super belle première saison de 24 beaux épisodes avec toutes sortes d'invités de toutes les sphères, que ça part des entrepreneurs dont... Éric Champoux, que j'ai pensé faire un clin d'œil, qui a été le premier invité de la microbrasserie La Chambre au podcast. Et aujourd'hui, je porte son chandail fièrement de l'émeute, ma bière préférée de La Chambre, ceux qui veulent l'essayer. Une bonne petite IPA classique, délicieuse. Et puis, étant donné que c'est un podcast tourné en soirée, on continue la tradition, toujours prendre une petite bière pendant le podcast de soirée. Et puis, oui, dans le fond, c'est ça, c'est le début aujourd'hui de la deuxième saison. Je fais une spéciale radio. C'est-à-dire que c'est le début de l'automne. Début de l'automne, pour moi, c'est synonyme de début de la saison de la radio aussi. Il y a toutes sortes de nouveautés musicales et également au niveau de l'animation, beaucoup de changements qu'on entend au niveau de la programmation des chaînes de radio au Québec et surtout dans la région de Montréal où on est présentement. Et puis là, je voulais faire vraiment différent. On va recevoir plusieurs invités, trois par semaine que j'ai dans la tête présentement. Donc, deux semaines back-à-back spécial radio. Et aujourd'hui, on commence ça en force avec Sébastien Trudel. Oui, le Sébastien Trudel qui était dans les Justiciers masqués, là, de ça, plusieurs années, mais qui a quand même été pendant 15 ans avec les Justiciers masqués, qui nous a fait rire en masse, c'est le cas de le dire, durant beaucoup, beaucoup d'années, dans mon cas, au niveau de l'adolescence. Désolé si ça te vieillit, Sébastien. Mais l'enfance et l'adolescence, là, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter. Et surtout, comme beaucoup d'autres Québécois, j'imagine. Et puis, tu es également... Ben, je vais faire l'intro en même temps. Puis, tout ça pour vous dire, en fait, qu'il va y avoir plusieurs invités qui respectent la thématique de la radio. Je vous en dis pas plus. Ils vont être annoncés dans les prochains jours. Alors... pour ce qui est de Sébastien, en fait, ceux qui veulent savoir, mais qui est Sébastien Trudel? Eh bien, beaucoup d'entre vous le connaissez déjà, mais je vais quand même faire le petit topo. Alors, c'est un animateur de 94.3 Énergie, donc la station de radio du Grand Montréal, à l'émission « Ça rentre au poste » avec Marie-Claude Savard et Maxime Martin, déjà depuis, je crois, 2018, qui sont ensemble le trio, en fait. Ça a débuté au niveau de l'été, puis par la suite, ça s'est transporté au niveau de la saison principale, si on veut, au niveau de la radio. Par la suite, en fait, auparavant, il a été, pendant 15 ans, comme je disais, co-animateur des Justiciers masqués avec Marc-Antoine Audette, qui a été un duo légendaire de la radio québécoise. Vraiment beaucoup de bons souvenirs. Également, le fils de Pierre Trudel, pour ceux qui sont un peu plus vieux ou plus jeunes que moi, qui ont quand même entendu parler de Pierre Trudel par ses parents ou quoi que ce soit, ça a été une légende de la radio également pour vraiment, il a pavé le pas, en fait, pour les autres dans sa profession et surtout pour son fils, j'imagine. On va en parler plus tard. Et puis, également, comme on a parlé avant le podcast Off the Record, Sébastien, également, auteur, il a écrit à micro fermé un livre qui va paraître en octobre 2020. Si tout va bien sûr, on ne connaît pas la suite avec la pandémie, mais on se croise les doigts que tout fonctionne. C'est les folles histoires de la radio FM. Je vous dis, ça m'intéresse déjà juste par le titre. J'ai hâte d'en entendre parler davantage. Et également, il est co-auteur et également idéateur du documentaire explosif sur la vie de Raymond Boulanger. Là, il y en a plusieurs qui vont dire « Oui, ça me dit de quoi, j'ai entendu parler de ça ». Eh bien, c'est normal, c'est sur les ondes, en fait, sur Crave présentement, ceux qui n'ont pas Crave comme moi parce qu'ils sont avec Vidéotron. Eh oui, la maudite guerre des postes et des grands câbleaux distributeurs. Malheureusement, on ne peut pas le voir, mais ceux qui ont accès à Crave, eh bien, allez voir ça. C'est la série numéro un présentement au Canada et puis au Québec. Et allez voir ça, ça a l'air que c'est incroyable et j'ai hâte d'entendre les coulisses, un peu comme on a entendu cette semaine à la radio de Sébastien là-dessus. Alors, oui, ceux qui veulent savoir les justiciers masqués, c'est quoi rapidement? Ben, écoutez, les justiciers masqués, c'est la réunion, en fait, de Sébastien Trudel, Marc-Antoine Audette. Ils se sont rencontrés, il y a de cela plusieurs années, on parle des années 90, au collège Jean de Brébeuf. Et puis, oui, ça fait déjà un bon bout de temps, mais ça a été le début d'une belle histoire. En secondaire 4, débute à la radio étudiante et par la suite, l'Université de Montréal à la radio étudiante également pour faire le saut à CKMF. Pendant plus de 3 ans et également à C'est quoi jusqu'en 2009, avant de faire un bref retour dans la radio C'est quoi Québec également jusqu'en 2015. Donc, ça a été une très longue épopée avec les justiciers masqués. Ceux qui se demandent, les justiciers masqués, c'était quoi un peu leur style? C'était des coups de téléphone légendaires. Quand on parle de coups de téléphone, là, pas des petits coups de téléphone qu'on fait à sa grand-mère. Ils ont piégé nul autre que Ozzy Osbourne, Donald Trump, Nicolas Sarkozy, Paul Martin, Bill Gates, Janet Jackson, Tiger Woods, Britney Spears, Justin Trudeau. Écoutez, j'en passe. Là. Vous allez dire, c'est impossible. Oui, tout est disponible sur YouTube. Allez voir ça. Et je me suis rafraîchi la mémoire cette semaine et je riais. C'est vraiment exceptionnel comme coup de téléphone. Alors, c'est un long topo, mais fallait que je la présente comme du monde parce qu'il y a une très belle carrière. Alors, merci beaucoup, Sébastien, d'être avec nous aujourd'hui.
Ben merci, Antoine, de l'invitation et bravo pour tes recherches. Je me souvenais plus de tout ça, fait que c'est impressionnant, honnêtement.
Oui, des fois, ça fait du bien de se rafraîchir la mémoire oui. Et se rappeler des bons souvenirs. Sincèrement, je vois pas comment on peut oublier avoir fait un coup à Ozzy Osbourne ou Donald Trump, mais c'est sûr que ça fait du bien de s'en rappeler aussi.
Oui, bien surtout ces deux-là. En plus, Trump, évidemment, il n'était pas encore président quand on l'a piégé, mais c'était quand même le personnage qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement mieux. Et puis, puis Ozzy Osbourne, lui, ça a été toute une affaire, alors que ça fait l'objet d'un épisode de la série des Osbourne, et il a appelé le FBI, qui d'ailleurs, tu parlais de mon livre, j'en parle un peu, puis je révèle d'autres affaires. Ça nous a valu d'être sous écoute par la GRC pendant quelques mois. Voyons. Oui, c'était parce que lui, quand on lui a révélé que c'était un coup, il a entendu le mot Québec, puis là, Québec, sa seule association mentale, c'était les Hells Angels. Fait que lui, il s'est dit, les Hells veulent me tuer. Et donc, écoute, tu peux t'imaginer la suite, là, c'est la GRC qui débarque la station, puis...
Ben c'est vrai que ça peut mettre dans le trouble parce que tu sais on sait que la radio, que ce soit les justiciers masqués, les grandes gueules, vous aviez un humour qui était très percutant et c'est sûr que c'est vraiment drôle, mais il y a certains types d'humour aujourd'hui, surtout là, j'imagine pas les justiciers masqués en 2020 avec le fait qu'on peut plus rien dire quasiment en ondes. Sûr que ça peut mettre dans l'embarras si on veut, mais dans votre époque à vous, il y a sûrement eu des, comme on parlait avec Ozzy Osbourne, d'autres situations qui vous ont un peu mis dans le trouble, que ce soit avec vos patrons ou quoi que ce soit. Là.
Oui, on s'est mis beaucoup dans le trouble. C'était un peu ça, mais je te dirais qu'aujourd'hui, ça ne durerait pas comme ça a duré parce que, comme tu l'as dit, effectivement, tout est vérifié, tout est clair. Je dirais que dans le type de show que je fais aujourd'hui, on a une liberté totale. Sauf que dans dans un show d'humour où tu écris des sketchs, où tu dois vraiment arriver à l'époque, c'était ça, à tous les jours. Maintenant, ça serait révisé par des avocats, ça serait pas comme c'était à l'époque. Même chose pour les grandes gueules, j'en ai jasé avec les gars des grandes gueules, puis eux autres aussi se disaient, ça serait plus ou moins plaisant, disons, dans le contexte actuel. Là, parce que la moindre petite affaire que tu dis est ressortie, c'est là, t'as les réseaux sociaux. Nous, on a eu la chance de tu avais Facebook et tout ça, mais tu n'avais pas tous les indignés, finalement, qui vont sortir une phrase, puis vont faire « c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens ». Fait que c'était une belle époque pour ça. Je suis content de l'avoir vécu, honnêtement.
Ben, au moins, la bonne nouvelle, c'est que ceux qui se demandent comment je vais faire pour écouter ça, s'ils ne sont pas tous sur YouTube, il y a les disques encore qui se vendent. J'en ai quelques-uns. Puis
Oui.
C'est une mine d'or, ces disques-là. Puis j'y réécoute constamment dans des road trips. Écoute, c'est vraiment... ça s'écoute naturellement. Et puis, il y a plusieurs de ces coups-là, d'ailleurs, qui étaient sur ces CD-là. On pense à Ozzy Osbourne qui, écoute, il marchait tout le long. On comprenait à moitié ce qu'il disait. Mais c'était très drôle de voir la rapidité, en fait, que vous pensiez à reprendre la balle au bon, comme on dit, puis de tout de suite répliquer en disant « Ouais, je pense que vous parlez de son chien en français à un moment donné, puis tu sais, rapidement pour revenir en anglais. » Il voyait qu'il y a du feu, en fait, mais tu sais, c'est Ozzy Osbourne.
Oui. Puis tu sais, c'était d'autres défis. Ben, Ozzy, c'est ça. C'est parce qu'en fait, Ozzy nous a un peu pris à notre propre jeu parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait. Fait que, tu sais, t'as beau parler anglais, là, c'était comme on ne comprenait pas un mot, puis je me souviens, je parlais à Marc-Antoine de l'autre côté de la ville, puis je disais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on avait un truc de prévu, puis là, finalement, écoute, c'est viré en grand n'importe quoi, mais il y a eu quelques coups comme ça qui ont été marquants. Paul McCartney, notamment. Moi, c'est une idole.
Incroyable! Paul McCartney, c'est fou.
Il y a lui puis Elvis. Pour moi, Elvis, évidemment, était plus difficile à rejoindre, mais...
Légèrement.
Mais Paul McCartney, ça a été ça. On lui parlait en parole de chansons des Beatles tout le long.
Aïe, aïe. C'est jamais rendu compte?
Il s'en est rendu compte au bout de 5 minutes, mais là, bon, il a dit que c'était un gang, tout ça. Puis là, tout de suite, il dit ben, je vais vous poursuivre, mes petits Chris. Puis en anglais, c'est You Little Fox. Puis là, moi, écoute, je suis venu blanc. Là, j'ai fait comme OK, je viens d'insulter mon idole. Puis il veut me poursuivre en plus. Puis ma vie est finie. Et finalement, il a laissé une pause. Puis il a fait ah, je viens de vous repiéger. Vous, fait que c'est un coup parfait pour nous. Là.
Vous êtes fait piéger à votre propre jeu. Puis c'était encore mieux, on dirait, de se faire piéger par son idole en plus. C'était encore. Oui. Wow, incroyable. Parce qu'il y avait les moyens de vous poursuivre légèrement.
Oui, effectivement. Effectivement. Mais ce qui est étonnant, c'est que la loi nous a toujours protégés. Au Canada, la loi dit que si une des deux personnes est au courant que la conversation est enregistrée, tu as le droit de la diffuser en ondes. Même pour des coups à des. À des gens qui n'étaient pas connus, comme on a fait beaucoup, puis qu'on avait beaucoup de fun à faire, dans le fond. Des coups à des gens connus, c'était, ça faisait des grosses tonnes, c'était cool. Puis tu rejoins quelqu'un, mais le défi, c'est de te rendre jusqu'à la personne, puis après ça, tu as un one-shot pour qu'il se passe quelque chose.
Exact.
Mais des coups à des gens qu'on appelait au hasard, ça, c'était vraiment le fun qu'on avait. C'est là qu'on avait le plus de fun, parce que là, tu peux recommencer, tu as un plan en tête, puis si ça ne marche pas, tu appelles quelqu'un d'autre. Puis, écoute, j'en ai fait, j'ai calculé, c'est à peu près 3000 en 15 ans. C'est beaucoup.
Hey, c'est quelque chose. Mais moi, ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est que là, on parle de deux petits Québécois là, du collège Jacques Brébeuf qui réussissent à piéger des gros noms comme ça. Tu sais, comment qu'on fait pour... Je sais que je veux pas que tu me dévoiles tes secrets parce qu'il y a certaines choses qui pourraient vous mettre dans le trouble aujourd'hui, mais c'est quand même d'avoir le numéro de téléphone de Tiger Woods, Britney Spears, Justin Trudeau, tout ça. Tu sais, Justin Trudeau, c'était avant Donald Trump aussi qu'il soit président, premier ministre. Mais quand même, c'est des vedettes, c'est des personnalités ultra connu, bien pas au Québec, là on parle d'international. Mmh. Comment que deux Québécois peuvent réussir à se trouver des contacts ou à...
C'est fou, là. C'était beaucoup de travail de bullshit, si je suis très honnête, parce qu'en fait, tu n'as jamais le numéro de téléphone direct. Je pense que c'est jamais arrivé. Je pense, avec Gérard Depardieu, quelqu'un nous avait fourni son numéro, puis là, tu vois, c'était plus difficile de le pogner parce qu'on l'appelait à tous les jours. Il était toujours sous. Fait que c'est comme bon. Fait que là, tu essaies de le pogner à un bon moment, mais s'il n'y a pas... Tu sais, ça a toujours été de passer par l'entourage,
Puis
là, d'essayer de monter les échelons, puis à un moment donné, les gens font confiance, mais ça prenait... Écoute, Britney Spears, ça a pris 3 jours, ça a été fait de même, ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans le marde parce qu'on n'avait pas de... C'était Céline Dion, on n'avait pas de fille pour faire la voix de Céline Dion, fait que Marc-Antoine a fait... Il a une voix plus aiguë que la mienne, et il s'est mis à parler. Moi, je suis OK, ça va durer 2 minutes, ça va être fini, mais Britney Spears n'est pas la plus allumée.
Ouais. Fait pas le créateur plus exil de la boîte.
Non, exactement. C'est pas le pogo le plus dégelé pour employer l'expression.
Le pingouin qui glisse le plus loin, bref, il y en a plein qu'on peut dire.
C'est en plein ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de déjouer l'entourage. C'est toujours ça. Mais il y a des entourages qui sont plus difficiles que d'autres. Mais quand on s'est rendu compte. En fait, le premier gros coup, on a pogné Céline Dion, qui était. Ça a été le premier coup qui a fait parler plus qu'au Québec.
René Angélil.
Ouais, elle est, oui. Non, il n'était pas de bonne humeur. Non.
Non,
non,
hein? Non, on sait non, ce qui s'est passé avec les grandes gueules. Pour ça, oui. J'avais oublié le bout des justiciers masqués.
Ouais. Oui, c'est ça. Mais écoute, mais comme il ne fait pas poursuivre, ben, il n'est rien arrivé. Puis quand on a vu ça, on pouvait quand même se rendre à Céline. En fait, ben, pourquoi est-ce qu'on ne vise pas une coche au-dessus? Puis là, le second qu'on a eu international, c'était Bill Gates. Puis wow. Ça, c'était quelque chose parce qu'il ne voulait pas parler au premier ministre du Canada. Il s'en calissait vraiment. Là. C'était pas important pour lui. Puis là, vraiment, on s'est rendu à dire, écoutez, c'est parce que là, si on ne réussit pas à organiser un appel, nos jobs sont en jeu. On était quasiment en train de faire semblant de brailler au téléphone. Puis là, finalement, la fille, elle a fait que, OK, je vais vous le passer. Elle était écœurée qu'on l'appelle à tous les jours, mais c'était peut-être 3 mois de démarche. Là.
Aïe, aïe. C'est la patience, c'est du travail, ça.
Oui, oui, mais non, ben, en même temps, c'était le fun parce que t'es toujours, à chaque jour où tu ne te fais pas déjouer, tu fais, OK, on va peut-être l'avoir. Puis ça a donné. On était justement à CKMF, ce qui est Énergie maintenant. À l'époque, et la journée où ils nous l'ont passé, c'était le 1er avril. Tu fais comme, OK, les astres sont alignés, puis tout ça, puis
poisson
on s'en va, on fait le coup, on s'en va voir notre boss en courant, on dit, hey, là, on vient de pogner Bill Gates, notre boss ne nous croit pas. non, tu comprends pas. Et ils disent, OK, c'est correct, poisson d'avril. Non, le poisson d'avril, il est à Bill Gates, c'est pas à toi qu'on le fait. C'est et là, il vient écouter, il réalise ça, on met ça à l'époque sur, tu sais, c'était en 2001, peut-être 2002, je pense.
Début de l'Internet.
Ouais, c'est ça. On met ça sur le site de Radio Énergie. Et là, CNN reprend la nouvelle, mais ils mettent un lien vers le site d'Énergie qui a été hors service pendant une semaine à cause de ça. Parce qu'il y avait, il y avait je sais pas combien de centaines de clics à la seconde. Fait que ça a été là qu'on a vu qu'on pouvait avoir un impact avec ça. Fait que,
effectivement. Ça vous a ouvert des portes aux États-Unis parce qu'il y a aussi dans toutes mes nombreuses recherches que j'ai faites sur ton cas dans les derniers jours, je suis tombé également que tu as... Attends un peu, j'ai pas mes lunettes, OK? Je l'admets, je vois rien quand j'ai pas mes lunettes.
Ah, ben, désolé. Pas de tour,
c'est ça qui arrive quand on les enlève au mauvais moment. Écoute, non, ça, je suis tombé sur un contrat de 3 ans avec MTV aux États-Unis que vous aviez eu quand même. On parle de ça en 2011. Écoute, c'est quelque chose, deux Québécois, d'avoir un contrat avec MTV. C'est un méga réseau aux États-Unis au niveau paparazzi, patin de vedette, tout ça. Oui. Qu'est-ce qui a fait qui a mené à ce contrat-là également?
En fait, c'était en 2000... je m'aide dans mes années. Ça va faire 20 ans que je fais de la radio. Fait que, écoute, étonnamment. Mais en fait, quand on a piégé Sarah Palin en 2008-2009, en tout cas, dans 2008, parce que c'était la veille de l'élection de Barack Obama, puis ça avait fait, là, écoute, on l'a piégé un samedi matin. Il nous a envoyé un jet privé pour nous amener à New York pour qu'on fasse une ronde d'entrevues. On a fait 600 entrevues.
Ben voyons.
C'était la folie. Puis là, c'est devenu vraiment une nouvelle importante au sens qu'ils ont dit, elle paraît tellement mal dans le cas, elle a tellement pas l'air intelligente. Elle, évidemment, c'était la coulissière de John McCain contre Obama. Puis là, c'est le lundi, on est revenu faire notre show à C'est quoi à l'époque. En jet, en avion. Moi, j'ai peur de l'avion en plus, il faut que je prenne des médicaments. Fait que j'étais pas tout là. Puis, bref, on fait le show en onde. Et quand je reviens chez nous, je me sens à CNN. C'est Anderson Cooper à l'époque. Et là, il fait son show en disant, il compare notre coup à Britney Spears, à notre coup à Sarah Palin pour dire laquelle sans dire le mot intelligente, là, parce que, tu sais, bon, c'est des journalistes. Là. Mais, tu sais, et là, je pitonne à d'autres postes de nouvelles américains, MSNBC, même Fox News. Écoute, c'était partout. Puis, il est en train de remettre en question sa compétence. Donc, MTV, ça a été 2 ans après, ils nous ont appelés pour qu'on fasse les 10 meilleurs coups, je sais pas si c'est tous les temps, là, mais tu sais, ça impliquait des trucs télé aussi. Donc, on a été là-bas pour tourner un show où on a, entre autres, rencontré Ashton Kutcher qui faisait Punk'd à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Il n'était pas le gars le plus sympathique du monde, mais...
Ah non!
Non, on l'a croisé. Puis là, finalement, ils nous ont invités à faire des brainstorms une fois par mois pour différents shows de caméras cachées. Fait que ça, écoute, ça a duré... ça n'a pas duré 3 ans, par exemple, parce que là, finalement, on est allé faire de la radio à Québec, puis ça devenait lourd. Puis très honnêtement, ça ne paye pas. C'est MTV, c'était l'équivalent du Musique Plus. Fait que, tu sais, t'as des shows, mais t'as pas nécessairement le gros budget. C'était pas la... Mais c'était cool. T'sais, tu vas à New York, c'est vraiment le fun.
Hey, c'est incroyable comme expérience quand même. Là. C'est parce que ça te permet de côtoyer des gens puis une sphère qu'on n'a pas accès au Québec. Quand on parle du milieu paparazzi, en fait, dans le coin de New York, Los Angeles, tout ça, c'est tellement plus gros qu'on peut s'imaginer. Pour y avoir été 2 fois, je pensais jamais voir autant de paparazzi suivre des vedettes puis rester planté devant une maison pendant une journée complète à espérer voir quelqu'un sortir puis finalement, personne. C'est pas tant payant, comme tu dis, mais le photographe qui réussit à avoir la shot de Britney Spears qui sort un peu trop défoncé, ça peut être payant sur un certain point, en fait. Mais ça pour dire que déjà que deux Québécois ont réussi à atteindre ce niveau-là, quand que n'importe qui dans le monde rêverait de le faire, puis d'atteindre en fait ces vedettes-là, ben c'est quand même assez exceptionnel. Puis je vous lève mon chapeau pour vrai, les boys, ça a été très intéressant à vous suivre pendant toutes ces années-là.
Ben, t'es bien gentil, écoute. Puis en fait, ce qui a été plus payant, c'était au niveau radiophonique, parce que comme la loi n'est pas pareille aux États-Unis, tu as besoin de la permission de la vedette pour diffuser un coup. Fait qu'à un moment donné, il y a eu un réseau de comédie qui nous a engagés avant MTV et tout ça. Et ensuite, c'est tombé dans l'émission de Howard Stern aux États-Unis, où là, lui, il voulait avoir tous nos coups en premier et il en a diffusé au moins 4 ou 5. Et écoute, ça, c'est quelque chose. À l'époque, c'était 17 millions de personnes qui écoutaient tous les jours. Quand fait que, tu sais, mettons, puis on savait pas, tu sais, à un moment donné, on entend dire qu'il veut diffuser notre coup à Britney Spears. J'ai hâte de voir, tu sais, je suis comme. Et là, il y a un matin, dans ma boîte courriel, j'ai à peu près 700 courriels. Et là, j'ai fait comme, OK, ça a clairement été diffusé. Puis là, évidemment, la crainte, c'était, OK, ils ont un accent québécois. Il avait dit qu'il n'aimait pas les Français quand il a fait de la radio à Montréal, mais il parlait des Français. Les gens, puis même moi, je me suis dit, Chris, il n'aimera pas ça. Au contraire, écoute, là, c'était extraordinaire. J'ai entendu cette cote-là, je l'ai encore d'ailleurs quelque part, puis c'est mon moment là, favori en carrière et de loin. Là. Tu sais, c'est l'impact que ça a, là, c'est inimaginable. Là. C'est vraiment wow. C'est impressionnant. Là.
Incroyable. Mmh. Ben justement, c'était une de mes prochaines questions. Tu viens de parler de ton moment préféré en carrière, mais si on veut la vedette que tu as préféré le plus piégée en carrière, il y a qui vient d'esprit en premier?
Mon Dieu, ben, j'ai parlé de Paul McCartney, ouais. Mick Jagger. C'est la même chose, c'est que les plus grands sont les plus gentils et systématiquement, ça a été ça. Mick Jagger, c'était le même concept que Paul McCartney. Là, on voulait, en parole de Tony Rolling Stones, puis là, en plus, lui, il parle très bien français, fait que c'est bien de nous parler en français.
Ah ouais, je savais pas.
Ça, c'est très hot. La chose la plus satisfaisante, par contre, c'était Nicolas Sarkozy. Qui était le président de la France, mais c'est parce qu'on avait piégé Jacques Chirac juste avant, mettons un an avant. Et là, les Français capotaient parce que c'était comme okay, comment ça a pu être transféré. On s'entend qu'ils ont des services secrets importants à la France.
Ben oui.
Puis on est parti de la réception là, de l'Élysée pour se rendre jusqu'à lui et ça s'est fait en 20 minutes.
Ben oui,
un coup de luck, là, clairement. Et là,
incroyable.
Lui, tu sais, hyper fin et tout ça. Et là, tous les Français avec qui on a fait des centaines d'entrevues, c'était comme, ben, tu sais, bravo, mais vous ne referez jamais ça, tu sais, oubliez ça, maintenant, c'est fini. Et la première journée que Sarkozy a été élu, on l'a eu la première journée. Et là, wow. C'était juste satisfaisant parce que quand tu te faisais, écoute, tu ne seras plus jamais capable de faire ça, c'est juste le défi de le faire.
Là, fait. incroyable. Ouais. Wow! Ouais. C'est sûr que c'est comme on sait que ça peut être stressant aussi, ces coups-là. Il y a lequel coup qui vous a le plus, je pourrais dire, stressé, énervé juste avant de le faire, puis vous êtes à coup, ça se fera pas. Là. C'est quelques minutes avant l'enregistrement, là, puis vous en tremblez, mettons. Là. Y a-t-il un qui vient en tête?
Ben, c'était un peu tout comme ça. T'sais. Je veux dire, Marc-Antoine, lui, en plus, c'était le genre de gars qui était malade dans une poubelle avant. Là,
OK,
c'est puis moi, j'étais un gars stressé aussi. Fait que, ça a toujours été très... en fait, tous les coups ont été stressants, peu importe qui, je te dirais. À un moment donné, là où on a eu de la pression, c'est quand on est... parce qu'on a arrêté la radio, puis on est allé faire un show de TV à Télé-Québec, dont on n'est pas obligé de parler.
Ah oui, je l'avais noté.
On peut en parler si tu veux. Mais tu sais, on est passé d'avoir du fun à la radio à avoir un show de TV à écrire où tu te fais checker par 4 avocats différents.
Ah,
et où tous tes gags sont coupés, puis là, t'es comme, OK, fait que là, il faut livrer un show d'une demi-heure, mais on n'a plus de gags.
Non,
puis là, donc, quand on a eu l'offre à Québec, on voulait vraiment retourner à la radio. Puis là, on est allé, puis écoute, Québec, c'est un marché de radio qui est extraordinaire.
Ben oui. Ben oui.
C'est local, puis la radio là-bas, les gens sont, tu sais, ils ont vraiment de il t'accorde de l'importance, c'est ce qui est vraiment cool. Là,
la radio parlée fonctionne bien là-bas aussi. Là.
Oui, absolument. Mais la radio parlée, justement, nous a attaqué en partant. La radio parlée, puis peut-être même une couple de personnes dans les journaux en disant ils ne pourront plus refaire de coups comme ils ont fait. T'sais, on avait arrêté depuis 2 ans. Ça n'arrivera plus. Là, on entend dire, en plus, première semaine, on entend dire par quelqu'un que le mal à la bombe se vante, que jamais il va se faire pogner par nous autres.
Là, on est comme, <t'entends.
rire> là, on est comme crinqué, puis on est comme, OK, là, on va leur montrer, Chris, là, parce que ça ne marchera pas. Là. Ça ne tentait plus tant que ça de faire des grosses personnalités, mais la première semaine, le mal à la bombe était justement booké dans les grandes gueules le mardi.
Oh non.
Qui faisait un show en direct de Québec. Nous, on était à Québec. Et là, on a fait, il faut jouer le tout pour le tout. On a appelé pour dire que la ligne dans le restaurant ne fonctionnait pas, qu'il ne fallait pas que la mère se déplace, il fallait qu'il fasse ça par téléphone. Mais évidemment, on lui donne le numéro de la ligne privée dans notre studio. Et là, on fait le show des Grandes Gueules à la place des Grandes Gueules.
Incroyable.
Mais tout ça se passe live et puis donc on pogne le mal à la bombe. Et là, le lendemain, on n'est pas content. Fait qu'on dit non, il faut leur montrer qu'on peut pogner des personnalités. Et on a pogné Stephen Harper le lendemain. Et 15 minutes après Stephen Harper, Ban Ki-moon, le président de l'ONU, est en réunion avec Barack Obama. On a fait interrompre la réunion pour le sortir de là. Pour qu'il parle à un faux Stephen Harper, justement. Fait que trois back-to-back, là, on a disons que les critiques ont arrêté au niveau de. Ils sont plus capables, là. C'était un moment satisfaisant, disons, je te dis.
Ben oui, exact. Puis c'est sûr qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui vous ont parlé à quand un retour des Justice Masqués. On en a parlé un peu au début, que ça va être difficile compte tenu du 2020. Là, c'est que ça, on n'a plus le droit de dire grand-chose. Puis surtout que, tu sais, Marc-Antoine a pris une autre voie de son côté. Oui. Toi aussi, maintenant, tu as des nouveaux projets. Est-ce que c'est quelque chose qui, des fois, vous en reparlez sûrement les deux étant des bons amis, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous trotter dans la tête, disait des fois, tu sais, après une bière un soir, hey, il me semble que ça serait le fun à un moment donné, tu sais, ou
toujours,
on ne sait pas, tu sais.
Écoute, ça me surprendrait beaucoup, pour être honnête, parce que Marc-Antoine, lui, c'est un peu un accident que tout ça soit arrivé. Lui, il a toujours voulu s'impliquer en politique. Oui, là, il est attaché de presse à la ville de Montréal, tu sais, puis c'est toujours le domaine qui l'a passionné. Puis moi, zéro. Là. Moi, c'est la radio depuis l'âge de 5 ans. J'ai jamais voulu faire autre chose dans la vie. Fait qu'on s'était dit au départ, bon, on fera 2 ans, tu sais, on fera... Puis finalement, à un moment donné, ça dure. Fait que tu continues, puis... Fait que ça me surprendrait. Est-ce que les coups au téléphone, c'est tu hors de question? Non, dans le sens que... Moi, souvent, à un moment donné, je vais lire les journaux, je vais être comme, « Colin! » Je vais avoir un petit moment où je commence. Ça me démange un peu, là, mais... Pas encore au point de faire des démarches, mais est-ce que ça va y arriver? Écoute, probablement qu'à un moment donné, oui. Là. C'est parce que c'est. Autant j'étais tanné d'en faire, surtout quand c'était quotidien, puis c'était... tu rentres en studio, puis des fois, tu n'as pas d'idée. Puis...
Mais non, c'est ça.
Là, il faut piéger, mettons, monsieur, madame, tout le monde, puis tu sais plus. À un moment donné, c'est ça. Tu dois livrer quotidiennement, puis tu n'es pas tout le temps content du résultat. Autant là, je dirais que des fois, ça peut manquer un peu.
Exact. Mais en même temps, tu sais, j'ai écouté beaucoup d'entrevues justement entre les Grandes Gueules parce qu'on a souvent fait la comparaison entre les Grandes Gueules et les Justice Masqués. Tu sais, vous étiez à deux époques, surtout à deux radios très compétiteurs, si on veut, Énergie et C'est quoi. Toi, à l'époque, tu étais à C'est quoi. Et puis, on s'entend qu'il y a souvent eu des
C'est un peu malheureux, je te dirais, tout ça parce que nous, on a commencé à Énergie en l'an 2000. Et on a 10 ans de moins que les Grandes Gueules. Puis je dis ça très. C'est pas une question d'âge. C'est juste que eux, dans le fond, ils faisaient 32 semaines par année. Puis on faisait 20 semaines par année dans leur show. Puis là, à un moment donné, oui. Puis ils nous demandaient de faire des personnages. Nous, on n'avait jamais fait de personnages. Pas les Grandes Gueules, mais les patrons. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, ça a été comme ah, OK. Fait qu'il faut inventer des personnages. Puis tu sais, c'était pas nécessairement ce qu'on préférait, en fait, très honnêtement, c'était pas ça qu'on préférait du tout. Nous, on aimait mieux, tu sais, le ad-lib puis les coups. Mais, tu sais, on a fait comme nos boss nous demandaient. Puis, là-dedans, les Grandes Gueules nous ont... tu sais, c'était comme nos grands frères, là, à la station. C'était vraiment... tu sais, ils venaient tester leur gag sur nous autres. Puis, nous autres, on testait, tu sais, timidement, là, en disant, pensez-vous que ça se correct? Fait que ça a été de même pendant 3 ans, où c'était vraiment cool. Puis, puis là, à un moment donné, ben c'est ça. Tu sais, on a eu une offre de C'est quoi, qu'on pouvait pas refuser. Puis, c'était ça. Puis au début, ils nous ont mis l'après-midi. Ça ne s'était jamais vu, un show d'humour de 1h l'après-midi à 4h.
Oui, c'est bizarre.
C'était très bizarre. Puis tout le monde disait que c'était une mauvaise idée. Mais on est tombé numéro 1 l'après-midi. Wow. Puis là, au lieu de nous laisser là, parce que les gens pouvaient nous écouter nous autres puis écouter les Grandes Gueules après, ce qui était comme parfait. Mais là, nos boss ont dit, au bout d'un an, ils ont dit non, on vous met dans le retour à la maison. Puis quand ils nous ont dit ça, on aurait dû être hyper heureux. On a fait non, laissez-nous là. Mettez autre chose dans le retour à la maison. Mettez quelque chose de... Puis là, tu sais, on s'est retrouvé forcément, malgré nous, en compétition. Puis tu sais, c'était à l'époque où c'était pas élégant, la compétition radio. Là, les couteaux pouvaient voler bas. C'est un peu ça qui est arrivé. Puis j'étais pas content. Tu sais, on avait de la pression des boss. Là, faut lire les... Si c'est des courriels qui rentrent, j'écoutais les Grandes Gueules, je les écoute plus. Faites-le. Puis nous, on voulait pas embarquer là-dedans, mais zéro. Puis, mais tu sais, c'est deux gars que j'ai revus. J'ai travaillé avec Mario Tessier, en fait, qui est venu remplacer Maxime Martin il y a 2 étés. Puis, tu sais, ça a été une expérience écœurante. T'sais, c'était comme... Tu sais, c'était... c'était impensable. Jusqu'à un moment donné, ils cherchaient quelqu'un pour remplacer. Mais je dis, ben, Mario Tessier, il serait-tu disponible? Mais ils m'ont dit, ben, franchement, ça ne marchera pas. Là, ben, pourquoi? Appelez-le, bon. Ben ouais. On se jasait, on s'était revus, puis on s'était jasé, puis c'était bien. C'était redevenu très amical. Là,
ah, ça jamais c'est été... pas vous qui exigez ça non plus. C'est pas vous qui créez cette compétition-là. C'est une compétition. C'est un peu d'imaginer à l'époque Michel Bergeron coachait le Canadien. Oui. Ça aurait été impossible. Oui. Mais tu sais, c'est pas. Il détestait pas le Canadien. C'était pas qu'il avait été avec les Nordiques. C'était un peu par le fait même, ça a devenu comme ça. Puis dans votre cas, à vous, on a vu la rivalité. Puis en même temps, aujourd'hui, comme vous dites, vous avez gardé une très, très bonne connexion entre Mario Tessier et vous, tout ça. Puis tant mieux. Et José Godet aussi. Mais en même temps, je me dis, tu sais, on a vu que les deux se sont séparés. José Godet, Mario Tessier également se sont séparés. Oui. Vous deux également avec Marc-Antoine Odette. Ça a été, tu sais, on sait que les duos, c'est qu'ils restent longtemps ensemble. Je pense au Denis Drelet aussi. Je me dis, on dirait qu'on ne les imagine pas se séparer un jour. J'imagine dans votre tête à vous, voyant chaque jour la même personne travailler des nombreuses heures, c'est au-delà d'une amitié, là, c'est devenu quasiment un compagnon de vie. Puis là, du jour au lendemain, faire chemin à part, si on veut, là, ça doit être spécial quand même.
Oui, ça l'est, effectivement. Puis, surtout au départ, mais en même temps, avec Marc-Antoine, j'ai toujours gardé d'autres projets à côté. Dans le fond, c'est une séparation radio, je te dirais, parce qu'on n'a jamais exclu de travailler sur d'autres choses. La preuve étant le documentaire sur Raymond Boulanger dont tu parlais tantôt. C'est ça, c'est une idée qu'on avait eue, je pense, ça fait 3-4 ans, puis on a essayé de faire ça en fiction. Ça a été acheté en fiction, dans le sens pour écrire quelques épisodes. Fait qu'on a continué à écrire ensemble là-dessus pendant que. Moi, je revenais à la radio, puis je faisais ça en même temps. Puis, donc, ça n'exclut pas ça. C'est vraiment l'aspect radio où, à un moment donné, tu te dis, on a fait le tour. On a fait le tour de ce qu'on pouvait faire ensemble, puis à un moment donné, si tu continues...
Ça étire l'élastique un peu trop. Là,
oui, c'est exactement ça. Puis je peux pas parler pour les grandes gueules, mais je pense que c'est un peu
la même chose qu'il disait. Oui, exactement. T'sais, les deux, à un moment donné, les chemins, un peu comme une trop longue relation de couple aussi. Des fois, ça peut que ça a cliqué pendant 15 ans, puis au bout de la 20e année, là, il y en a un qui voit son avenir là, l'autre voit son avenir là, puis si ça marche juste plus, c'est pas qu'ils s'entretiennent, qu'ils s'entendent plus ensemble, c'est juste qu'à un moment donné, deux chemins ont besoin d'être pris de chaque côté, puis écoute, c'est ça qui est arrivé dans votre cas, puis les grandes gueules, puis tant mieux. Regarde, moi, je t'avoue que quand j'espérais longtemps ton retour à la radio, puis quand je t'ai entendu un été à Énergie, je pense que c'était en 2017, si je ne me trompe pas, au début, je trouvais tellement que... Je n'étais pas sûr au départ, je me suis dit, on est habitué de le voir drôle, on est habitué de le voir tout le temps essayer de puncher, et là, de le voir dans un rôle d'animateur, est-ce que ça va fonctionner? Puis finalement, vraiment, je suis forcé d'admettre que ça a été excellent, la chimie est vraiment bonne avec Marc-Claude Savard, Maxime Martin, tellement qu'ils vous ont donné le show du retour, c'est quand même le plus gros show de radio, le show du retour à Énergie aussi, et puis félicitations, ça a été un beau tour de force de réaliser, puis aujourd'hui, on vous écoute régulièrement, puis c'est excellent pour vrai.
Ben, t'es bien gentil. Puis, tu sais, ça a été. En même temps, à Québec, c'est moi qui animais le show aussi. T'sais, à un moment donné, ça a switché à ça à Québec. Fait que, tu sais, c'est devenu. Fait que là, mon rôle est devenu. On ne faisait pas de personnage. Fait que c'est devenu un peu différent là. Puis moi, j'ai toujours voulu animer. Là. Fait que c'était pas. Puis même la dernière année, à C'est quoi, à Montréal, il m'avait mis animateur du show. Il avait un peu changé le concept. C'était un peu fucké, mais. Fait que. Puis quand je suis revenu à l'énergie, mais tu sais, tu t'habitues. Tu sais, ça m'a pris une adaptation. Là. C'était comme. Tu sais, d'y aller, puis là, faut que tu vendes de la musique, faut que tu fasses les espèces des plugs, les pubs, tout ça. Ce bout-là était comme. Tu sais, où j'ai fait comme OK, on dirait que je sentais que j'en partais à zéro, là, un peu. Mais c'était un beau défi, puis. Puis l'affaire, c'est vraiment. Tu parlais de la chimie. C'est ça, tu n'inventes pas ça. Puis je veux dire, en radio, ils l'essayent encore. Ils vont, prendre plein de monde. Ils vont prendre quelqu'un de la TV avec un humoriste. Puis ils vont essayer de sacrer ça ensemble.
Ça fait pas tout
marche. Et ça marche. Ben même, pas rarement, mais ça peut être un échec vraiment retentissant. Ça, et tu vois, le premier show avec Max et Marie-Claude, moi je le savais au bout de 5 minutes. J'ai fait comme OK. Là, on a vraiment quelque chose.
Je me souviens, j'étais dans ma voiture, je revenais de mon ancien travail, puis suite, quand je suis parti, c'est un beau soleil d'été, il fait chaud, t'ouvres les fenêtres, t'écoutes la radio, puis là, j'ai dit, « Hey, Sébastien Trudel, fait un bout qu'on n'a pas entendu parler. » Marie-Claude Savard, hein? Ouais, OK, je suis pas sûr. Tu faisais des sports avant. Maxime Martin, un humoriste. Ouais, là, quel genre de trio que ça va faire, c'est un peu weird. Puis finalement, après 5 minutes, j'ai dit, oh non, on la sent. On la sent tout de suite, la chimie. Comme d'autres choses, j'ai écouté même cette année que je nommerai pas, mais que j'ai entendu tout de suite un trio qui est improbable. Puis non, ça clique pas. Tout de suite, après 5 minutes, on le sent. puis ça clique toujours pas. Je l'ai écouté plusieurs temps après. Ça
tu peux le nommer si tu veux.
Ouais, mais je sais pas. C'est peut-être à votre poste pour ça.
Ah, OK. Non, mais ça, bon.
On ne dira pas. OK, pour ça que je dis, ça dépend des chimies, mais bon, dans votre cas, c'est vraiment bon.
Non, puis, tu sais, Max, moi, c'est bizarre parce que je l'avais connu. Ça, c'est une histoire un peu fuckée, là, mais à 18 ans, en même temps que j'étais engagé à Énergie avec Marc-Antoine, on a été engagé sur un show dont personne ne se rappelle, mais c'est le pire échec de l'histoire de la télé. Ça s'appelait Les Gingras Gonzalez.
Et
c'est ce qui a remplacé La fin du monde est à 7 heures.
Ah, ça me dit quoi, ouais.
Tout le monde s'en souvient, ouais, à peu près.
J'étais trop jeune, peut-être.
Ben, tant mieux, t'as rien manqué. Mais nous, on était là, tu sais, dans le fond, on faisait des capsules de 30 secondes, mais tout le show était live. Et à la première réunion, t'avais Martin Petit, Paul Hood qui animait, Michel Richard. C'était un mélange de sitcom et de... Et puis, à la première réunion, tout le monde s'est mis à se chicaner et à s'envoyer chier. Le show n'est pas encore en onde. Puis moi, j'ai 18 ans. Je suis comme, OK, c'est ça, la télévision, ça va bien. Et puis, le seul qui nous parlait, c'était Max. Parce que lui nous a dit, regarde-moi, il dit, je ne veux pas me chicaner, moi, je vais en fumer un bat dans le parking. Venez-vous avec moi.
Ça y ressemble.
Oui, ben, ça y ressemblait.
À l'époque, oui, plus maintenant.
Puis,
ouais.
Puis finalement, ben, tu sais, mais je l'avais quasiment pas revu depuis ce temps-là. Puis Marie-Claude, moi, je la connaissais justement juste de la télé. Puis c'était ma voisine, mais on ne se parlait pas. Fait que c'était ma voisine d'en face. Non, mais c'est ça. Non, en tout cas. Mais.
Ça donne pas tout le temps que les voisins, faut te dire. Mais moi, il y en a quand je parle pas. Puis ça veut pas dire qu'on les haït, c'est juste que ça donne pas.
Non, puis écoute, puis tu sais, moi non plus, je connaissais pas sa personnalité, tu sais, autre que ce qu'on voyait, mettons, justement, salut, bonjour, tout ça. Et là, écoute, j'ai immédiatement découvert une fille qui est prête à dire n'importe quoi en ondes. Elle a aucune censure. Elle se fout de ce que le monde pense d'elle. Aucun filtre. Et puis, puis Max, ben, lui, il est comme ça, c'est naturellement. Fait que ça a fait comme, OK, fait que là, on a quelque chose où, tu sais, on tient quelque chose, là, finalement.
Oui, bien, tu réussis à bien les mettre en valeur chacun. Ils ont autant d'espace à un. Parce que souvent, on voit qu'il va y avoir comme un superstar dans un trio. T'sais, on sait que c'est cette personne-là, faut qu'il punch. Il faut que, un peu comme dans le temps de Philippe Bande à Énergie, que je me rappelle avec Pierre Pagé et Anaïs Favron, on le savait tous que c'était Philippe Bande, il fallait qu'il punch. Ou Joe Roberge après, c'était évident qu'il fallait que la balle soit envoyée à lui. Puis bang, lui, arrivait il rentrait là-dedans bien solide. Là, mais dans un trio comme le vôtre, on se dit, techniquement, ça devrait être Maxime Martin, mais on ne le sent pas. On le sent pas. Chacun prend sa place. Des fois, ça va être Marie-Claude qui va dire quelque chose qu'on va dire « Ah, là, c'est drôle. » Puis c'est pas juste une question de drôle, mais ça va être intéressant ou, tu sais, une bonne chronique. Puis, mais toi, tu réussis à bien les mettre en valeur, bien dispatcher ça. Puis c'est, je pense, ce qui fait la force de votre trio également. Chacun a ses forces.
Ben, t'es bien fin. Puis en fait, c'est ce que les boss nous ont dit à un moment donné, c'est qu'ils ont dit « OK, c'est la première fois qu'on voit que c'est comme un tiers, un tiers, un tiers, dans le sens que tout le monde apporte de quoi au show. » Puis, tu sais, moi, je vais parler de mes affaires en onde où, tu sais, là, j'ai un doigt dans... Tu sais, j'ai fait ça en kayak, je me suis arraché l'ongle. Et j'ai le nerf coincé. Il m'arrive toutes sortes d'affaires dans la vie où je suis quelqu'un qui est très TDAH. Puis, j'ai commencé à plus partager ça. Tu sais, plutôt faire des jokes, c'est même pas des... Tu sais, j'ai commencé à partager ça pas mal à Québec parce que ça s'est avéré plus grave rendu là parce que j'avais quand même un peu perdu mes repères. En tout cas, écoute, j'ai perdu mon char à peu près 4 fois dans la première semaine. J'ai perdu mes clés. Là, j'ai commencé à compter ça en nombre, puis je me suis rendu compte que le monde embarquait et aimait ça.
Je connaissais là-dedans.
Et, puis là, c'est ça. Dans le show, moi, c'est ça. J'ai un peu le rôle de un peu ce rôle-là, dans le sens que je me fais rentrer dedans de partout, puis moi, j'adore ça. Là, c'est parfait. Mais il n'y a pas personne, justement. C'est pas OK, il faut que Max punch là, puis c'est. Puis on a la chance, évidemment qu'on on se prépare les sujets, on va parler de telle chose, mais jamais, jamais on prépare ce qu'on va dire en nombre. Personne ne sait ce qui va arriver. Puis c'est ça qui est merveilleux. C'est vraiment que on est préparé, mais pas à ce qui va arriver. Puis souvent, on a une idée de sujet, puis ça va déraper dans une autre direction. Puis c'est sûr, c'est ce que je trouve le fun là-dedans du côté ad-lib, là, parce que c'est moi, j'ai jamais vécu ça. Puis de pouvoir aussi parler en nombre pendant 6, 7, 8 minutes. On est quand même une station musicale, mais nous, on a cette liberté de faire ça, ce qui n'était pas le cas avant, là, où c'était des... tu fais 2 minutes, tu fais 3 minutes, tu te fais taper ses doigts, puis c'est ça, là, fait que c'est cool.
Exact, mais c'est... Oups, excuse-moi. Ça fait partie du décor, ben, un chat qui décide qu'il s'interpose.
Ben, c'est parfait.
Ouais, en tout cas, désolé, mais c'est soit ça ou il miaule tout le long. ma blonde est partie, j'ai pas le choix. Ben oui, oui. En même temps que tu as dit ça, ça m'a fait penser à une question. Comment tu as vécu, toi, la radio COVID? Tu sais, on s'entend que c'est complètement différent depuis le début de la pandémie. Comment vous avez vécu ça, vous, le trio d'énergie au niveau du retour? C'est sûr que là, vous avez débuté, dans le fond, vous avez terminé votre dernière saison au début du COVID, puis là, vous recommencez, la pandémie est un peu à slacker un peu.
Nous, on est les seuls qui ont... tout le monde a continué, mais nous, on est les seuls qui sont restés en studio, as is.
Ouais.
Tu sais, à Rouge, ils ont, parce que le studio est plus petit, ils ont mis en bas, à distance, tout ça. Nous, on a continué tout le long, comme... Ben, pas comme ça l'était, évidemment, là, tu comprends. Ouais. Mais, tu sais, on a continué dans le même studio, puis évidemment... Oui, c'est exactement ça. Fait que ça n'a pas changé. Puis au contraire, ça nous a motivés pour les idées. On arrivait avec des trucs. OK, on va faire des shows à des artistes sur le balcon. Puis ce qui a fait qu'on c'est a été le show le plus viral, mais oui. Même pas au Canada. En Amérique du Nord, ils l'ont calculé. C'est pas moi qui dis ça, là. J'ai l'air de... Mais ils ont calculé ça parce qu'on avait des 600 000 vues par vidéo. Puis on en postait tous les jours. Et bon, puis moi, ça a été tough parce que moi, je suis hypochondriaque à côté. Là, en temps normal... j'ai peur de chier au poignet de porte, normalement. Fait que là, je peux te dire qu'au départ, sortir de chez nous, c'était tough. J'étais comme, OK. Fait que là, je m'en vais à la radio. Fait que là, moi le masque, je le porte depuis longtemps à Chris. Là. Puis, j'avais des gants, j'avais tout. Puis au début, il me regardait comme les deux autres. Il était pas sûr que je suis allé toffer. C'était comme, c'était très anxiogène et épouvantable. Mais le fait de pouvoir, justement, de pas être confiné puis de pas. Ça nous a permis de garder notre show comme ça, puis de bâtir justement, de bâtir un public fidèle, tu sais, qui nous a découvert peut-être par Facebook, par justement des moyens de promo non traditionnels, puis qui ont commencé à écouter de la maison, tu sais, non pas dans leur champ. Fait que ce qui fait que là, en ce moment, tu sais, je pense qu'on récolte
les efforts.
Exactement, excuse-moi, je cherchais mon expression. Oui, parce que il y a des, tu sais, là, on a des évidemment, c'est à la radio, maintenant, tu as les résultats tous les jours. Des fois, les boss ne veulent pas tes données. Ça, c'est pas bon signe. Quand tu es dans tous les jours, c'est parce que ça va très bien.
Ça va bien,
oui. Puis ça va bien. Ça va vraiment très bien. Fait que c'est cool. Ça a été une période vraiment weird, par exemple. J'ai vécu le 11 septembre à ma première semaine en onde. Non, c'est pas vrai. C'est la première saison en onde à Énergie en 2001. On faisait de 9h à minuit. On commence le 3 septembre. Et là, évidemment, il arrive les attentats. Et là, c'est comme, OK, est-ce qu'on fait des jokes? On peut-tu faire des jokes? On peut plus faire de jokes?
Mon Dieu.
Ça a été weird, mais ça a duré. Tu sais, il y a eu deux semaines, mettons, où c'était... Mais la pandémie, c'est une autre affaire. Tu sais.
Oui, parce que l'inspiration est moins là. J'écoutais des humoristes qui disaient que, comme Maxime Martin, justement, oui. Tu sais, c'est pas évident d'essayer de créer un gag, des jokes en période de COVID. Tu sais, c'est... Bien beau que tu essaies d'être inspiré. Là, c'est peut-être un petit peu mieux, là, mais tu sais, au début, quand on était dans le confinement... Sur quoi tu te bases, là, tu sais, sur la gaffe que ton petit a faite, sur toi qui s'est coincé le doigt dans la porte, tu sais, comment tu fais pour, tu sais, créer des situations drôles, surtout un humoriste à la radio, à chaque jour, il faut que tu t'aides l'inspiration, et là, l'inspiration que le COVID a droppé sur un temps, c'est quoi de dire?
Ben, c'est parce que, il n'y avait pas d'autres nouvelles, tu sais, fait que là, nous autres, quand même, on se base souvent sur des nouvelles pour partir, t'as rien d'autre, fait qu'on fait OK. Puis le pire, c'est deux jours avant que tout le monde soit confiné, puis Marc-Claude avait eu, Marc-Claude est plugué partout, c'est hallucinant. Elle avait eu des infos comme quoi il y a quelque chose qui s'en venait d'un top médecin, en tout cas.
Wow.
Puis moi, je suivais ça à la télé américaine, puis moi aussi, j'étais inquiet. Puis là, quand Marc-Claude est rentré en studio, elle a dit, honnêtement, ça va chier, là. Ça va vraiment, tu sais, ça s'en vient, là. Puis on est rentré en onde en disant, OK, moi, j'ai répété ce que Marc-Claude me disait, j'ai dit, on pense vraiment que ça va être quelque chose. Puis là, tu avais des auditeurs qui textaient en disant, faut pas arrêter de faire paniquer le monde, ça. Puis ce qui est normal, là, tu sais. Mais puis deux jours après, là, c'était confinement. François Legault qui fait la conférence quotidienne. Fait qu'on s'est débrouillé avec ça. Mais en faisant des jeux, en faisant tout pour genre divertir les gens et ne pas parler que de ça. Puis là, encore aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui, je pense, est à notre avantage. Oui, tu sais, ça existe, puis on va en parler, mais tu sais, on fera pas, après la pause, la deuxième vague s'en vient, selon ce que des radios font, qu'on nommera pas, où on entend juste parler de ça encore. Puis là,
ça devient lourd, on est tanné.
Puis oui, les gens, puis ça paraît, je te dirais que ça s'apparaît dans les chiffres qu'on a de code d'écoute. C'est que là, à un moment donné, on sait tous que ça se peut que ça arrive, mais si tu fais juste parler de ça, à un moment donné, tu vas perdre du monde qui vont faire comme, regarde, on le sait ce que c'est, on l'a vécu une fois, puis on veut pas juste entendre parler de. Il faut qu'il y ait d'autres sujets, il faut qu'il y ait du divertissement quelque part. Là.
Exactement. Puis c'est à ça que ça sert à la radio, changer les idées aussi, puis laisser libérer un peu le stress de la journée de travail. Vous êtes dans le retour en plus. Ouais. Les gens finissent de travailler une journée et l'autre, surtout avec le masque obligatoire. Tu portes un masque toute la journée et là, tu arrives dans ton char, tu as besoin de libérer un peu. Tu as d'un fois une heure et demie, deux heures de trafic. De te faire parler de COVID, j'imagine qu'en tout cas, personnellement, j'ai pas envie de ça. Fait que je me dis, il doit y en avoir d'autres comme moi qui ont envie de se faire changer un peu les idées.
Ben moi, je pense toujours à la personne dans son char, justement, qui vient de faire sa journée de travail, qui là va se. Parce que là, le trafic est revenu à 100%, tu sais. Ouais, il doit se taper le trafic, puis je me dis, cette personne-là, c'est sûr qu'elle veut décrocher, là. C'est sûr qu'elle. Puis c'est correct, tu sais, on a des bulletins d'information, tout ça, mais c'est sûr que cette personne-là ne veut pas entendre deux heures de stress supplémentaire avant d'arriver à la maison, de faire le souper pour les enfants, ou peu importe. Fait qu'on est dans ce thinking-là, puis on va le rester parce que je pense que c'est nécessaire en ce moment-là.
Exact. Mais écoute, gardez le cap pour vrai parce que vous réussissez très bien votre mission jusqu'à date.
Merci beaucoup. Merci.
On va changer complètement de sphère, si on veut, de discussion de quoi qu'on parlait. Oui. Le sujet, en fait, que je voulais aborder, c'est qu'on sait que, en tout cas, moi, je l'ai appris à travers mes recherches. Je l'avais appris, en fait, dans le passé, mais je n'étais pas certain de mes informations, qui était le fils de Pierre Trudel, qui a fait de la radio dans le temps à CKAC également.
Oui.
Au niveau radio parlée, ça a été vraiment un des premiers à apporter cette petite touche-là au niveau de la radio. Et toi, en fait, étant le fils de Pierre Trudel, est-ce que tu as toujours senti un peu cette pression-là de faire comme papa, mais de dire, est-ce que les gens vont me comparer quand tu as voulu faire de la radio? Est-ce que ça t'a apporté un stress supplémentaire ou d'un sens, ça a toujours été ton plan de match?
En fin de compte, c'est que mon père m'a apporté en studio, c'est ça, dès l'âge de... En fait, j'étais bébé. mes premiers souvenirs, c'est vers 5-6 ans. Puis... Je me souviens très bien que j'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Par contre, je suis zéro un gars de sport. Je ne connais pas le sport. Fait que, tu sais, je voyais aller mon père, mais c'était pas ça que je voulais faire. Moi, c'était le médium qui m'intéressait. puis, j'ai jamais pensé à rien faire d'autre. Puis, en même temps, mon père n'a jamais pu m'aider pour ma carrière parce que, tu sais, c'était deux affaires complètement différentes. Fait que, tu sais, ça a été une inspiration. Puis, je veux dire... Ça l'est toujours aujourd'hui. Puis, c'est lui qui détient le record de l'animateur qui a fait le plus longtemps de ligne ouverte. Fait qu'il a fait ça pendant 47 ans. Là,
incroyable.
Sauf que j'ai appris de lui au sens, en le regardant travailler, son contact avec les auditeurs. Puis, il a toujours respecté l'auditeur qui appelle. D'être très, très proche de l'auditoire et tout ça. C'est un gars qui a toujours été humble. Tout ça. Fait que, j'ai pris ces valeurs-là. Puis à un moment donné, j'ai dit, je veux faire de la radio. Puis il m'a dit, c'est pas un job qui est facile. Puis,
c'est pas facile.
Ça n'a pas été facile. On était à l'Université de Montréal, à CISM, quand on a commencé. Puis c'est quand même une radio qui est diffusée partout à Montréal. Là, tu la pognes au 89.3, pas mal partout sur l'île. Sauf que ils nous avaient donné un show d'affaires publiques. On s'est mis à faire un show d'humour. Là, il était en tabarnak après nous autres, puis ils voulaient nous mettre dehors. Mais on a continué parce qu'il y avait quand même un certain... On avait du feedback même à l'époque. Mais tu sais, on envoyait systématiquement chaque semaine un CD de nos meilleurs moments au Buzz Énergie et au Buzz de C'est quoi.
C'était votre but.
Et on les appelait après ça. On disait, en fait, ils ne nous répondaient pas. Avez-vous reçu notre CD cette semaine? Rappelez-nous. Écoute, ça ne rappelait pas. Ça a duré comme ça pendant un an et demi jusqu'à temps que... La même semaine, André Saint-Amand, qui est boss de C'est quoi, qui est une légende de la radio, qui est le gars qui a découvert François Pérusse, Norman Brateau, tout ça, nous appelle en même temps qu'Énergie, la même semaine. Écoute, là, on est comme, OK. Et là, on a signé un contrat à C'est quoi pour faire un show de week-end. Et je te jure, en sortant de C'est quoi à Verdun à l'époque, on reçoit un appel d'Énergie qui nous dit, venez-vous-en tout de suite.
Ben non.
On peut vous rencontrer. Là. Puis là, moi, je dis, ben, on vient de signer à C'est quoi. Ils ont dit, on s'en fout, on va s'arranger. On s'en va à Énergie. Et là, ils nous ont, écoute, c'était quelque chose, là. Ils nous ont enfermés dans une pièce, ils nous ont commandé du Saint-Hubert, puis ils nous ont dit, vous sortez pas d'ici tant que vous n'avez pas signé avec nous autres aussi. Et en cave de 18 ans, on a signé deux contrats en même temps.
Aïe, aïe, aïe.
Fait que ça a été,
quelle histoire.
Oui, ça a été 6 mois de ne pas pouvoir faire de la radio parce qu'on avait comme enfreint cette règle-là.
Ah,
et étonnamment, celui qui nous a poursuivi à C'est quoi, qui était l'adjoint d'André Saint-Amand, c'est mon gérant depuis 18 ans. Maintenant. C'est une belle histoire.
Ouais. Hey, c'est, des fois, on ne sait pas d'où ce que ça sort, tu sais, puis on pense que ça va mener à quelque chose de négatif, mais gars, finalement, ça a débouché à quelque chose d'ultra positif dans ton cas, puis une belle rencontre également. Puis, waouh, quelle histoire pour vrai. Merci de nous la partager. C'est vraiment intéressant. Puis, on a parlé un peu du côté difficile de la radio. Tu l'as vécu aussi, les parts de marché, c'est tellement important de te faire dire à chaque jour, OK, là, on a eu un bon mois, là, c'est pas bon, ou tu sais, les codes d'écoute sont en baisse. Le stress, la pression qu'il y a sur vos épaules, excusez-moi encore, en feu à soir. oui, ceux qui sont juste à l'auditoire présentement et non visuels, j'ai un chat qui fait des siennes depuis tantôt. C'est ça, on a parlé un peu du côté de la radio qui est très difficile. Comment toi, tu l'as vécu dans ta carrière, ce côté-là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a stressé aussi? Parce que, tu sais, on sait que tu as quand même disparu des ondes pendant quelques années pour revenir par après. Est-ce que ça t'a un peu fait peur à ton retour de dire « Ouais, je me retape-tu vraiment ça, cette pression-là, ou c'est comme une drogue, dans le fond, que tu peux pas te passer? »
Pour répondre à ta question, oui, c'est ben, tout le monde est stressé. C'est normal parce que tu dépends des codes d'écoute, puis tu dépends de tout ça. Puis en même temps, tu sais, je te dirais que moi, j'étais relativement chanceux au sens que quand ça a été fini avec C'est quoi à Montréal, c'était d'une entente commune parce qu'on avait un contrat pour un show de TV, puis on ne s'entendait plus avec les patrons sur la direction à donner au show. C'était vraiment ça parce que, écoute, c'était là, il y a un moment donné, puis en radio, là, je pense que dans les deux dernières années, à ce moment-là, là, ils changeaient de public cible. Là, c'était comme on vise le gars de tel âge. Après ça, c'était. Et là, à un moment donné, nous annonçons on vise la femme de 39 ans. OK. Parfait. À ce moment-là, moi, j'ai 28, whatever. Puis si on fait un show qui s'appelle les justiciers masqués, puis là, c'est comme, bon, la femme a 39 ans, je ne suis pas sûr qu'elle va aimer ça. Puis étonnamment, on a fini avec des meilleurs sondages que d'autres shows. Puis je n'aimerais pas de nom, là, mais il y avait des gens dans la grille qui sont à TVA, mettons, là, qui plaisent vraiment à la femme de 39 ans. Et on a eu un meilleur score là-dedans, sauf que la décision était déjà prise. Puis tu sais, je te cacherai pas qu'on l'a regretté dans le sens qu'on a fait comme OK, on n'aurait jamais dû prendre un contrat de TV là, puis quitter la radio pour ça parce que ça a été une année d'enfer à TV. Puis après ça, on a eu, tu sais, il y a eu genre une couple de mois de flottement avant d'aller à Québec. Mais, fait que tu sais, j'ai jamais vécu vraiment de situation où on me dit genre, hein, tu sais, t'es congédié ou quoi que ce soit. Là.
Ouais. C'était quasiment tout le monde à la radio le vécu.
À part à la télé. À part oui, là-dessus, mais ça a été le plus grand soulagement de ma vie. Mais,
c'est ça. Ouais, dans ton cas, ça a été bon.
Ouais, j'étais tellement content. Mais, c'est ça. Pour ce qui est de la radio, ben, tu vis avec ça tous les jours. Tu le sais. Là, tu sais qu'à un moment donné, ça va être ton tour. Puis, tout le monde est au courant. Je trouve que c'est des fois très mal fait, par exemple. Il y a beaucoup de cas où... justement, par rapport à C'est quoi, comme c'était une entente commune, on a pu faire un show, même plusieurs shows d'adieu, entre guillemets. Là, à Québec, à un moment donné, c'est parce qu'on ne pouvait plus continuer dans le sens que Marc-Antoine voulait faire autre chose. Puis c'était ça. T'sais. Puis même chose, ça a été super cool. Ça a été comme, écoute, ben on sait qu'on est en bon terme. Fait que j'ai jamais quitté vraiment en mauvais terme. Fait que ça, je suis chanceux là-dessus. Mais je sais que tout le monde vit avec ce stress-là, surtout avec la pandémie. Il y a eu beaucoup. C'est un privilège énorme d'avoir un micro. Là. Puis j'en suis conscient. Puis j'en suis vraiment reconnaissant. Parce que il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur job. Il y a eu des gens qui ont été mis au chômage pendant une couple de mois. Fait que là, c'est sûr que c'est pas évident. Parce qu'il y a des pertes de revenus, c'est normal. C'est... Puis,
je comprends bien.
ça revient. Je pense que ça revient correct. Là,
dépend
sauf
des
que
sphères de métier.
Ouais, ben,
c'est l'événementiel est off pas mal, je dirais.
C'est ça, ben oui. Non, c'est ça. Fait que, c'est tough. Ça a été tough pour tout le monde.
Ouais.
Là, la radio, ça a été tough pour bien de mes collègues que j'ai vus perdre leur emploi ou se faire offrir 50% de leur salaire. C'est pas moins que ça même. Pour faire la même job, puis il y en a qui ont fait j'ai pas le choix. Il y en a qui les ont envoyé chier aussi, tu sais. Fait que c'est. Mais c'est sûr que c'est le genre de période que tu redoutes. Là. Mais,
ça doit être tough aussi quand tu remplaces, tu sais, j'ai pas le choix. Tout le monde va savoir de qui je parle, mais exemple, José Godette, vous l'avez remplacé directement après, parce que vous étiez dans le show d'été, eux autres étaient le show de l'automne, puis là, ben, ils ont décidé de faire des changements. Finalement, c'était vous qui embarquiez l'automne. Ça a été comme un peu, j'imagine, difficile de votre côté parce que vous connaissez déjà très bien. Puis là, oui. Dire, ben, je prends sa place, mais c'est pas ton choix à toi, mais ça reste quand même, t'es content d'avoir le poste, mais là, tu vois un tes chums qui perd le sien. Ça doit faire spécial un peu. Puis ça, je dis que la radio, c'est ingrat d'un bord là-dessus, je trouve.
Oui, mais en même temps, je te dirais que ça a été fait. Puis il y a toutes sortes de choses que ouais. Moi, je ne sais pas, qui sont arrivées en coulisses. Puis, sauf que ça, ils ont été. Puis José, Richard et puis Marie-Christine, je dirais, moi, j'étais comme. À un moment donné, on a su ça. Puis eux, ils l'auront dit en même temps. Eux ont été obligés de rester en nombre pendant 3 mois en sachant que c'était fini. Ce qui n'a pas été facile vraiment pour eux autres. Puis ils l'ont dit. Puis je les comprends tellement. Là. Puis, sauf qu'ils ont été tellement fins et gentils. C'était pas. Évidemment, c'est ça. C'est hors de notre contrôle. Puis, on a réinvité José dans notre show. Puis, il a été hyper cool. Puis, c'était. Parce que, tu sais, tout le monde comprend que c'est pas les décisions des animateurs rendus là. C'est pas. En fait, c'est des situations qui sont pas évidentes, par exemple. Puis, de voir aussi d'autres, des collègues. Puis, des gens que t'aimes. Elle en est partir, puis tu sais, c'est soudain, puis tu es comme, OK. Puis là, tu forcément, tu es attaché à tes collègues, puis tu sais, on n'est pas beaucoup dans une station radio, là, c'est une équipe soudée. Tu sais, là, à Énergie, je trouve qu'on a cette année, puis là, je ne dis pas ça pour faire un blog, mais je trouve qu'on a une crise d'équipe là, de gens qui ils veulent s'entraider, tout ça, alors que j'ai vécu dans d'autres stations où chaque show était comme en compétition avec l'autre, puis là, c'était. Là, tu te disais, on n'est pas en compétition à l'interne. Il faut essayer de s'aider. Pourquoi on se nuirait d'un show à l'autre à l'interne quand, justement, c'est une job qui tient à un fil, là, quasiment. Là. Fait que, je suis content que ça ne soit pas cette situation-là. Puis ça m'encourage beaucoup pour l'avenir.
Ben oui, vous avez une belle programmation aussi cet automne. J'ai été très, très heureux également d'apprendre le retour de Philippe Bande avec Pierre Pagé sur l'heure du midi. Pour vrai, c'est rafraîchissant, même si c'est du vieux qu'on remet. Mais dans mon cas, ça fait au moins 8 ans que j'attends ce retour-là. Ça a été incroyable comme duo à radio. Puis on parlait de chimie tantôt. Là, ça a pris 10 secondes, la chimie est revenue. Ces deux-là devaient refaire la radio ensemble. Puis je suis vraiment content que ça se passe à Énergie en plus. Ça aurait fait bizarre à c'est quoi, mais ça fait vraiment du bien que ça se produise.
Mais tu sais, en fait, la chimie, tu sais, n'est jamais partie dans le sens que c'est des gars qui sont amis dans la vie.
Exact.
Fait que, c'est un peu. C'est la même chose pour nous autres, tu sais, avec Marc-Claude et Max. On se voit en dehors du show. Puis ça apparaît en ondes parce que, tu sais, quand tu fais juste faire un show ensemble, puis tu ne parles pas, puis tu ne te vois pas, les gens le sentent. Puis je pense que j'ai des idées, j'ai des noms de shows que je ne sais pas. Bon.
Non.
Oui, c'est moins évident, disons, tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, de savoir, tu sais, j'entends parler d'affaires, puis, tu sais, il y a de la bisbille dans telle équipe, puis je me dis, mais Chris, ils rentrent ensemble quand même, puis ils font leur show, puis ils essaient de faire ça, mais...
Ça se ressent, le public n'est pas niaiseux.
C'est ça, exactement.
Exact. Écoute, c'est le monde de la radio est fascinant, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une semaine spéciale, en fait, 2 semaines spéciales radio, et de te recevoir comme premier invité, mais là, il faut que je fasse une petite pause radio, parce que là, je vois l'heure qui défile, puis t'auras pas soupé, pauvre toi, mais il faut, moi non plus, mais je veux vraiment que tu soupes, et puis il faut qu'on parle de ton documentaire, en fait, en premier, puis on va parler de ton livre en terminant, le documentaire, en fait, sur la vie de Raymond Boulanger, qu'est-ce que amené à créer ce documentaire-là et de le sortir sur Crave également, quand on pense à peut-être le sortir via la télé traditionnelle. Parle-nous un peu de tout ce processus-là.
Écoute, c'est une histoire assez fuckée. Je me suis retrouvé il y a 4 ans dans un souper au restaurant qui s'appelle Les Trois Tilleuls. Je pense que ça a fermé récemment. C'est Michel Barrette qui a ça, quelqu'un d'autre. Et puis, donc, des amis de plein de gangs différentes. Fait que, à un moment donné, on prend un verre, on s'assoit, ça donne... Que quelqu'un me dit, c'est-tu à côté de qui t'es assis? Moi, je vois un monsieur, certain âge, j'ai aucune idée. Il dit, la personne m'a dit, Google Raymond Boulanger. Google, et là, je fais comme, ouh, OK, tu sais, genre. OK, c'est la biographie de, tu sais, c'est ça, c'est le plus gros trafiquant de l'histoire du Québec, 4 tonnes de cocaïne. Il s'est fait pogner, mais pas vraiment, dans le sens qu'il a livré, mais c'est les gens de la même chose. Fait que l'histoire est fascinante. Et écoute, je me suis reviré de bord, j'ai dérangé le monsieur. Là, j'ai vraiment, j'ai été très poli parce que On fait attention avec des narcotrafiquants. Et puis,
il n'a pas une bine sur l'épaule.
Non. Je peux te poser une couple de questions. Finalement, ça a duré 4 heures. Moi, je faisais juste y parler. Puis, c'était une question après l'autre.
Il y avait de la jasette, hein, monsieur?
Oui, puis j'avais beaucoup de questions. Je veux dire, je voulais tout savoir. Puis, à partir de là, Marc-Antoine était présent aussi. Là, on se présente ça. Puis là, j'ai dit, il faut faire de quoi avec ça. Il y a eu un livre. Puis, le livre est super bon. Mais j'ai dit, mais il faut soit faire une série de fiction. Puis, ça a parti avec l'idée au début d'une série de fiction qui a été achetée par une productrice super connue. J'ai une productrice connue, fait que tu peux t'en douter. Tu peux te douter du nom.
Ouais.
Et puis,
je ne l'ai pas nommé, mais ouais. Une dame.
Exact.
Cas, ouais. On sait de qui on parle.
Puis elle, tu vois, est allée chercher la moitié du financement de Sony en Colombie. Ça coûtait 1,5 million par épisode. Fait qu'elle est allée chercher 750 000 en Colombie, mais là, il fallait quelqu'un à cote au Québec et c'est ce qui n'est pas arrivé. Mm. Puis c'est plate, mais en même temps, c'est cool parce que là, c'est devenu un documentaire. Puis moi, je voulais que ce ne soit pas un documentaire avec un narrateur, là, comme on voit traditionnellement.
Oui, c'est ça.
On est allé voir Canal D, puis on a dit, il n'y aura pas de narrateur, c'est lui qui va se raconter, on va le laisser parler.
Canal D, pas de narrateur, c'est pas mal tout avec des narrateurs.
Oui, écoute, c'est la première fois que je pense qu'il y a une série comme ça, parce que ça va être diffusé là, évidemment, en janvier. Ils ont décidé de le mettre sur Crave parce qu'ils ont vu qu'il y avait un engouement, puis écoute, c'est mieux que ce que je pouvais espérer. Là. Je t'enverrai un lien secret, si tu veux. Tu pourras le voir. J'ai pas le droit de faire ça.
Non.
Je t'enverrai un lien.
Merci beaucoup parce que je trouve ça plate. Je vais faire une parenthèse. Il faut que je le dise dans le podcast. Là, mais la maudite guerre entre Vidéotron et Bell, je veux pas que tu embarques là-dedans parce que, tu sais, Énergie, Bell, tu sais, on connaît les liens. Mais je trouve ça un peu plate parce que c'est les auditeurs qui payent pour. Parce que si le. Je pourrais dire, je comprends que Bell n'a jamais eu de club illico, là, t'sais, mais t'sais, ça fait longtemps qu'on dit qu'il aurait besoin de quelque chose d'équivalent. Crave apporte un peu ce côté-là et c'est de bonne guerre dans le sens, je pourrais dire, la personne qui a le goût d'aller écouter telle série va se désabonner Vidéotron pour aller avec Bell. Je pense que c'est ça le but initialement. Par contre, tu prends un peu en otage les auditeurs en faisant ça. Et puis là, de ne plus avoir super écran également sur demande sur Vidéotron, je trouve ça dommage parce que c'est les auditeurs qui voudraient écouter votre documentaire qui pourront l'écouter à Canal D en janvier, comme tu disais, tant mieux. Mais en même temps, je trouve ça un peu dommage parce que ça ne reflètera pas exactement les vrais codes d'écoute que vous auriez eu peut-être si c'était en grande primeur, exemple, à TVA aujourd'hui, ce soir. Tu sais.
Oui, mais écoute, c'est un truc compliqué que je t'avoue que j'ai de la misère à suivre parce que dans ma tête, tout devrait être disponible sur n'importe quelle plateforme. C'est avantage d'avoir de rendre Crave, Netflix, Club Illico, peu importe, là, comme ça, tous les créateurs sont et les gens et les téléspectateurs sont avantagés, sauf que c'est ça. C'est quelque chose que moi, je comprends pas trop et contrôle pas, mais ce que je sais, c'est que ça, écoute, c'est ça marche beaucoup là, sur Crave.
C'est excellent. Vous êtes numéro 1 en ce moment. Félicitations. Pour vrai, ça a l'air d'un franc succès. J'ai très hâte de voir ce documentaire-là. J'ai vu des extraits. J'ai écouté ton entrevue à Énergie. Ça donne le goût, le gars. Écoute, sur le coup, je me suis dit, aïe, c'est impossible. Le gars, c'est sûr qu'il bullshit. C'est impossible. C'est la première chose qui m'est venue en tête. C'est digne d'un film hollywoodien. C'est fou.
Ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, il y a un film avec Tom Cruise qui s'appelle American Maze.
Je m'en allais justement d'en parler. Je l'ai écouté. C'est exactement ça.
Ben, tu sais, Raymond Boulanger, il a engagé Barry Seal, qui est le personnage de Tom Cruise, dans la vie.
Fait que,
j'ai
l'air d'en d'ailleurs, ce film-là. Il est très, très bon.
Ben, c'est ça. Mais, tu sais, c'est un peu la même histoire. Mais, tu sais, Raymond Boulanger était vraiment. C'est un gars, oui, qui raconte, puis c'est un conteur, puis il y a des gens qui nous ont dit « beurre épais ». Mais en même temps, on a tout contre-vérifié. Toutes les informations sont là. Il y a des journalistes qui sont là. Tu as Norman Lester dans le documentaire. Tu as plein de journalistes d'enquête. Puis c'est tout vrai. C'est ça qui est l'affaire.
T'as dû passer par la tête, toi aussi, de dire « c'est impossible, le gars. On va contre-vérifier pour être sûr. » Parce que ça n'a aucun sens.
Oui, parce que le gars a travaillé pour la CIA. Puis là, il raconte qu'il transportait de la coke pour la CIA. Moi, ça, je n'étais pas au courant que la CIA, mais ils ont été pognés, puis c'est documenté. Si tu fais des rappels, pas dans ce film-là, je parle d'un autre film, mais le journaliste qui a sorti l'histoire à l'époque, et je ne me souviens plus du nom du film, je suis désolé, mais ce journaliste-là qui a sorti le fait que la CIA faisait rentrer de la coke aux États-Unis pour payer leur guerre ailleurs, pour pas que ce soit directement le gouvernement américain, puis qui ont, dans le fond, rendu accro des millions de personnes à la coke. Ça a été prouvé. Là, je ne veux pas dire « faites vos recherches » parce que je vais avoir l'air de quelqu'un qui veut… je ne suis pas le sud-arien. mais c'est ça, c'est documenté. Puis le journaliste en question, qui était le premier à sortir ça, il s'est suicidé de 2 balles dans la tête. 2 balles dans la tête.
C'est un peu bizarre, hein? Ouais. Il vide sa gâchette.
il y a un talent quelconque que personne d'autre. Ah, mais en tout cas, fait que bref, c'est une histoire qu'on voulait, compter. Puis là, ça a été l'aboutissement de 2 ans de travail. Puis on est très heureux du résultat. Là. C'est vraiment cool.
Écoute, vous n'êtes pas peureux parce que j'aurais eu peur d'avoir une petite visite ou un colis suspect dans mon entrée en arrivant chez nous. Mais en même temps, surtout plus pour lui, ça reste que, comme il disait dans l'entrevue, il a peur de rien. Ça se ressent, par contre, à l'âge qu'il est rendu, peut-être ça l'aide aussi. Mais en même temps, c'est quand même stressant de dire que c'est peut-être ta famille, quelqu'un pourrait s'en prendre à toi. Ça reste qu'il dévoile beaucoup d'informations qui sont choquantes pour certains, sûrement, j'imagine. Oui.
Absolument, vraiment. Mais sauf que c'est un gars qui s'en est toujours foutu, puis qui s'en fout toujours. Puis, oui, effectivement, là, il est rendu à 72 ans. C'est un gars qui a un cancer qui est incurable, mais qu'en même temps, ça ne veut pas dire que c'est traitable, mais c'est un traitement expérimental. Il y en a peut-être encore pour 10 ans. Sauf qu'il s'en fout. C'est vraiment lui, c'est un peu son testament, là, dont justement, il y a 2 enfants avec qui ça a été, il a été absent forcément, 23 ans de prison. T'es pas trop là. Bon, 2 évasions, évidemment.
C'est ça, j'ai entendu ça à la radio, 2 évasions de prison. C'est incroyable.
Il n'y a rien qui est ordinaire avec lui, mais non, c'est... Puis écoute, moi, c'est weird parce que c'est comme rendu un ami. J'ai passé des centaines d'heures avec lui depuis les 4 dernières années. Il m'a sauvé la vie également. Ça, c'est l'autre affaire. J'ai eu un accident de Sidou quand même assez grave l'été passé. Mais j'ai souvent des accidents, fait que c'est pas... c'était... pas y a une vague, mais tu sais, 50 pieds plus loin, la veste de sauvetage qui débarque, tout. Ah, et 2 côtes cassées, et là, je suis dans l'eau, puis je veux remonter. Je te jure, il y a un bras... Je sens un bras dans l'eau, incroyable. Et c'est lui qui me sort de l'eau. On était dans la même gang d'amis, dans le même chalet, mais tu sais, je fais comme... OK, là, moi, je vois l'enfant, je fais comme... OK, il a 72 ans, il me sort de l'eau. Puis c'est le gars des cartels de Colombie puis qui travaille avec Pablo Escobar. C'est juste fucké, mais anyway.
Quelle histoire. Ben oui, c'est ça. Pour ceux qui se le demandent, l'histoire est vraiment fascinante. Là, on parle d'un Québécois qui a fait entrer de la drogue pas sans le vouloir. C'était volontaire. Il savait ce qu'il faisait. Là. C'était très volontaire. Il l'assume très bien. C'est un pilote, puis il réussit à rentrer beaucoup de kilos de cocaïne. Mais pour la CIA, puis également pour Pablo Escobar, on connaît très bien Pablo Escobar, même ici, pour de nombreuses séries également sont disponibles sur Netflix, ceux qui veulent voir. Mais c'est assez spectaculaire qu'un Québécois a fait ça pendant toutes ces années-là. S'est fait prendre, a purgé sa peine, s'est évadé. Malheureusement, s'est fait reprendre. Bref, il y a toutes sortes d'histoires qui est arrivée avec ce gars-là, qui est fascinant. Si vous voulez écouter ça, disponible sur Crave. Vraiment un bon documentaire que je vous suggère parce que j'ai hâte de l'écouter également. Et puis, on va terminer l'entrevue, Sébastien, parce que j'ai hâte de te laisser aller souper, mais il faut qu'on parle de ton livre qui va... j'imagine que tu as faim. c'est ça, tu es l'auteur d'un livre qui va paraître et que je vais me procurer dès sa sortie, qui est toujours prévu en octobre 2020, juste comme ça?
Bien, c'était prévu en avril à la base, mais là, ça a été en octobre. Mais oui, écoute, c'est 14 octobre, je pense, si je me trompe pas.
Parfait. 14 octobre, allez voir tous les grands libraires du Québec pour vous procurer, en fait, à micro fermer les folles histoires de la radio FM. Écoutez, on sait que tu es très bien placé pour parler de la radio FM. Également, ton père, j'imagine, qui t'a placé des bonnes histoires également là-dedans, même si lui, c'était plus le AM, en fait. Là. C'est sûr que ça a dû aider comme inspiration dans toute cette belle aventure. Qu'est-ce qui a fait que tu as désiré, en fait, écrire un livre sur la radio FM?
Dans le fond, c'est que c'est vraiment un livre d'anecdotes. Là. C'est pas un livre d'histoire. Je voulais rien savoir de ça. C'est en jasant avec Guy Aubry, avec qui je travaillais, avec Guy Aubry, qui a été une légende de la radio FM dès le départ. Là, c'est lui qui a dans les débuts de C'est quoi, même chose pour Énergie, il a fait les deux. Michel W. Duguay. En jasant avec ces deux gars-là dans un party, ils commencent à... En fait, ils se comptent des histoires entre eux autres, puis moi, je suis genre entre les deux, puis je suis comme, OK, ça n'a pas de sens.
Je note ça.
je les regarde se relancer, puis je suis comme, mais ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, c'est sans... sans lien avec Raymond Boulanger, mais disons que je travaillais là-dessus en même temps. Puis là, il comptait des histoires, justement, disons que c'était c'est plus que plus libre, là. C'était des histoires de les animateurs qui sont payés cash dans les bars, payés en drogue. Après ça, des orgies en studio.
La radio des années 80, là, c'était quelque chose, 70. Là.
Oh, mais puis c'est plus intense qu'on pense. Là, parce que là j'ai parlé, là, je me suis dit, bon, OK, je vais faire des entrevues avec eux autres, juste pour voir s'il y a... le stock, là, tu sais, après ça, Mario Lirette, j'ai fait, OK, là, on a
quelque chose.
Je tiens de quoi, oui. C'est des histoires qui sont hallucinantes, tu sais, je veux dire, ça a vraiment été une période de sexe, drogue et rock and roll, c'est pas un cliché, là, c'est ça.
Aurais-tu aimé vivre dans cette époque-là sans dire que faire sexe, drogue, rock and roll, mais vivre comme animateur de radio dans ces années-là?
Ben, au début, je pensais que la réponse était oui, puis plus ça va, puis plus je leur ai parlé, puis j'ai... Parce que ça a mal viré à un moment donné. Ça a mal viré, puis là, j'embarquais pas dans les affaires trop élevées, mais tu sais, il y a eu... il y a eu à CKMF... Oui, puis tu sais, il y a eu des gens qui s'en sont pas sortis, overdose, etc. Puis il y a eu l'histoire d'Alain Monpetit, qui était un animateur, tu sais, qui était comme le monsieur radio-télévision, tu sais. Il était à TVA, il était... avec sa télémétropole à l'époque, puis il était à CKMF, puis lui, ça s'est terminé par un meurtre à New York, là, ce qui est un peu traité dans le film avec Patrick Huard, là, qui est Funky Town. Oui, les noms ont été changés, mais c'est vraiment...
C'est vrai que Funky Town, ça se passe dans cette époque-là, exactement.
Ben, en fait, c'est l'histoire, carrément, de ce gars-là, mais ils ont changé les noms pour des raisons légales. Fait que c'est fascinant, mais c'est une dérape qui part de 1978 et qui finit peut-être mi-90. Fait que j'ai parlé à tout ce monde-là, puis c'est vraiment eux qui sont cités. Fait que donc, t'as le nom de la personne, t'as la citation exacte. J'ai pas rendu ça clean. C'est vraiment la personne qui parle, si la personne saxe, la personne utilise un langage, c'est compté tel quel.
That's it.
Fait que c'est ça. Écoute, j'ai bien hâte que les gens lisent ça parce que ça pourrait faire jaser, je pense. J'ai une couple d'affaires là-dedans qui sont.
Ouais.
Je l'avais pas relu depuis avril, puis j'ai fait, ouais, OK, c'est.
Ça va-tu passer?
Une couple d'affaires, ouais, c'est ça.
Des affaires que tu as peur d'avoir des poursuites ou non?
Oh non, du tout. Non, non, vraiment pas. Okay. Non, c'est juste que c'est une facette du showbiz que les gens ne connaissent pas. C'était assez. Pas dark, mais c'est devenu dark à un moment donné. Puis tu sais, je parle de cette époque-là aussi. Puis c'était les parties en studio. Puis tu sais, amène des filles, peu importe. Il n'y avait pas de. Puis tu as l'arrivée du sida, tu as tout ça. Puis j'ai aussi traité après ça du changement qui s'est au début des années 90 vers l'humour. Fait que là, tu sais, j'ai Normand Bratois dans le livre François Pérus, RBO, ben oui. Fait que tout ça, fait que c'est. Ça couvre à peu près tout, mais tu sais, c'est vraiment pas un livre. C'est pas chronologique vraiment, là. C'est un livre d'anecdotes de gens qui sont passionnés de radio puis qui comptent leurs affaires. T'sais, j'ai Mario Tessier aussi qui m'a parlé de plein de trucs, des grandes gueules, tu sais, qui se font passer hors dans le fait que c'est ça.
Je me le procure dès que ça sort, ça, c'est certain. Écoute, c'est juste bizarre parce qu'imagine qu'il n'y aura pas de lancement de livre étant donné le COVID, les rassemblements, comment ça va fonctionner?
Ça va être un lancement Zoom, j'ai l'impression. Je pense que c'est ça qu'ils font maintenant, mais ouais. Écoute,
C'est mieux que rien.
Ben oui.
C'est bizarre, on n'a pas le choix, il faut continuer à vivre. On ne sait pas combien de temps que ça va être comme ça. Puis en même temps, ben, si c'est la nouvelle réalité que veux-tu, ça sera ça notre monde.
Pas le choix.
Ben, écoute, je te souhaite sincèrement un franc succès pour la sortie du livre et pour les ventes également. Je vais le suggérer, je vais mettre le lien également sur la page du podcast dès que ça va sortir. Je vais l'avoir dans ma main en plus. Je vais t'en faire une présentation dans un intro du podcast qui va être disponible cette semaine-là. Puis, si ça peut aider aux ventes et à faire connaître, tant mieux, ça va me faire plaisir.
Ben, c'est bien apprécié, Antoine. Merci beaucoup.
Tant mieux. Écoute, je pense qu'il y en a un qui a hâte que sais pas trop quoi, là, j'aille donner à manger ou quoi que ce soit.
Il veut souper.
Ouais, il veut souper, lui, avec. Écoutez, je vais te laisser en fait là-dessus aller souper d'ailleurs. Et puis, je te remercie énormément, Sébastien, d'avoir participé à cet épisode-là. Ça a été vraiment, écoute, on en aurait pendant 3 heures à jaser de toutes sortes de sujets, des anecdotes de radio, comme tu en as sûrement plusieurs à raconter. Mais écoute, ça a été génial. J'apprécie tout ce que tu nous as donné. Très généreux. Merci énormément.
Ben, t'es bien gentil. Merci de l'invitation.
Ben, écoute, c'est la moindre des choses. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes du Made in Québec podcast pour un autre épisode dans la semaine spéciale radio. Et puis, je vais laisser le chat quitter sur cette conclusion. Alors, merci beaucoup à tous et puis à la prochaine.